Vous écoutez
RMC.
RMC Top of the Foot,
la punchline.
Oui, et je vous rappelle juste avant de partir sur Mbappé qu'on sera avec le fils de Sir Alex Ferguson pour un entretien Top of the Foot dans un instant. Jason Ferguson, réalisateur d'un documentaire autour de la vie de son père, passionnant documentaire dans lequel témoignent Ryan Giggs, Eric Cantona notamment. On en parlera tout à l'heure. Mais donc Kylian Mbappé a donné une longue interview dans le Nouvel Obs, qui est donc paru aujourd'hui, et dedans il parle d'énormément de choses en dehors du foot, et notamment de son engagement. Il dit, un grand sportif se doit d'être engagé. Avant, beaucoup de gens me poussaient à m'engager, à dire ce que je pense sur les différents sujets, et je répondais que je n'étais pas prêt, que je devais digérer mon nouveau statut, ma nouvelle vie, ma nouvelle notoriété. C'était peut-être égoïste, dit-il. Je pense qu'un grand sportif se doit d'être engagé, et aujourd'hui, je suis prêt. Donc, il s'est positionné, notamment sur certaines affaires, en condamnant certaines violences inadmissibles, a-t-il déclaré. Et puis, il s'est également positionné autour de certains débats de société, en mettant en avant certains qui allaient au-delà du foot, en prenant l'exemple de Marcus Rashford notamment. Et puis il a bien affirmé son attachement à la France en disant, je suis né en France, j'ai grandi en France, la France m'a tout donné, j'essaie de lui rendre chaque fois que je joue pour l'équipe nationale. Voilà, en plus la France a fait des choses pour mes proches, pour ma famille, la France m'a beaucoup donné, donc il faut être fier de son pays. Et d'ailleurs, juste pour finir, il y a la question de l'identité également autour de lui, puisque donc il a un père camerounais et une mère algérienne, au niveau des origines bien sûr,
oui, parce qu'ils sont nés en France, hein.
Voilà.
Oui, ça compte.
Mais il dit, je peux comprendre qu'on me pose la question sur l'identité, mais pour moi ça a toujours été clair, je suis né en France, mes parents sont français, j'ai grandi en France, je suis français à 100%, je suis extrêmement fier de mes origines, parce que ça fait partie de mon histoire, ce sont mes racines, mais mon pays, c'est la France. Alors, sur l'engagement des sportifs, c'est un débat qui revient beaucoup ces derniers temps. Est-ce qu'un sportif doit être engagé? Et quand vous entendez Mbappé parler comme ça, qu'est-ce que vous en pensez, Captain?
Écoute, c'est bien formaté son discours. Hein. Je pense que... Qu'est-ce qu'il y a?
Mais non, mais là, le pauvre, quoi qu'il dise, de toute façon, il se prend un coup de rap.
C'est bien formaté sur le fait qu'il dise qu'il est français, mais je pense que personne n'a contesté le fait qu'il soit français, d'un papa qui est d'origine camerounaise, comme moi je suis d'origine béarnaise. Enfin, c'est, voilà, et son papa est né en France aussi, le papa de
mm-hmm. Kylian. Oui, bien sûr.
Bah, donc il est français, et sa maman, elle est née en France, donc elle est française. Il y a zéro problème de ce côté-là, mais vraiment aucun problème. Mais quand tu me parles de Rashford ou d'homme ou de personnalité autre que sportive, il y a ceux qui parlent, ceux qui prennent position, et puis il y a ceux qui agissent. Moi, je suis toujours en admiration, par exemple, sur ce qu'a pu faire un garçon comme Coluche. Aujourd'hui, malheureusement, son initiative perdure et malheureusement, elle continue à être de plus en plus utile parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont besoin de manger à leur faim et qui ne le font pas. Mais entre se positionner et être dans l'action, honnêtement, je préfère des gens qui ne parlent pas trop mais qui agissent. Et je pense que toute personne sportif, homme politique, homme de spectacle est beaucoup plus utile dans l'action.
Après, pardon, capitaine, mais quand même, ne faisons pas ces reproches à Mbappé qui fait des choses aussi, quand même. Tout n'est pas médiatisé, mais il est présent dans plusieurs associations.
Mais Jean-Louis, excuse-moi, mais
on parle d'une interview où il explique tout ça, donc forcément, on est sur les paroles, pas sur les actes. Mais il y en a quand même des actes.
Eh bien, tant mieux pour lui, mais j'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'actes.
D'accord, c'était pour dissiper tout malentendu, il n'y a pas de souci.
Non, je dis simplement qu'à la limite, il dit, moi, dans la plus grande discrétion, je fais ce que je pense être utile à faire. Voilà. Et peut-être qu'il prendra la tête qu'un jour, je ne me rappelle plus qui est-ce qui était sur la mucoviscidose. Je crois que c'était Zidane, non, qui était,
oui,
sur la mucoviscidose.
C'est pas la mucodystrophie? Non, c'est mucoviscidose de Zidane.
Mucoviscidose.
Ah, pardon.
Mais je me demande si Julien n'a pas raison, mais bon.
Je suis pas un spécialiste, hein, je suis pas Doctolib non plus. Hein.
Ouais,
j'ai tenté un truc là, je me suis lancé un peu à pieds joints.
Mais
Julien a raison, effectivement.
Et oui, mais ça c'est la team Rodez. Avec Zidane, on est.
Que Kylian Mbappé prenne la tête d'une d'une croisade pour que les gens malheureux ou les gens malades ou les gens handicapés aient une vie plus agréable, ben, personne ne... Et c'est très bien. Mais tu n'es pas obligé de le faire. Je ne pense pas que ce soit une obligation. Je pense que c'est ton fort intérieur qui te guide et qui te le.
Est-ce que ne pas le faire, c'est être égoïste? Parce que c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il sous-entend dans l'interview. Il dit quand on est sportif de haut niveau, qu'il y a autant de gens qui nous écoutent, etc. Si on peut faire des choses en plus, il faut le faire. Sinon, c'est ne penser qu'à soi.
Mais Jean-Louis, tu ne changeras pas la nature profonde des gens. Il y a des gens qui sont très riches et qui n'ont jamais donné un centime à qui que ce soit. Jamais. Et puis, il y a des gens qui sont beaucoup plus pauvres, qui sont même parfois à la limite et qui sont généreux.
Merci de parler de nous aussi, Jean-Michel. C'est important. Parce
la générosité.
Oui, merci.
La générosité, elle ne se mesure pas au chèque que tu fais à une association contre le cancer ou pour des enfants malades. Elle se mesure à ce que tu as et ce que tu donnes par rapport à ce que tu as.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Voilà. Donc, moi, je pense que c'est bien qu'un homme public prenne et fasse. Je préfère qu'il fasse plutôt que qu'il dise. Voilà, mais je suis sûr que Kylian Mbappé, et il l'a fait, je ne citerai pas, mais ça me revient à l'esprit, il a été généreux, comme aucun employé aucun fonctionnaire ne peut l'être. Mais bon, tout est relatif dans la vie.
Alors,
tout est relatif.
Julien, et après on aura quelqu'un de riche et généreux.
Il s'engage. Roland ?
Riche et généreux, coach.
Ah, j'ai pas entendu généreux. Et donc.
Non, mais il donnait 50 euros pour aller chercher une boîte de nuggets à la grande époque. Attends, et regardez la monnaie.
Il donne beaucoup contre la maltraitance des animaux. Enfin, tout ce que tu donnes aux chevaux, j'espère que ça leur revient quand même. Quand tu paries. Par rapport à Mbappé, il dit il s'est engagé contre la violence, tout ça. Alors j'adore, c'est quoi la violence? C'est quoi contre la violence? Non, parce que moi, les mecs qui sont contre la violence faite aux chevilles de Neymar, c'est faite à qui? Parce que violence, ça veut tenir rien.
Notamment
dire.
Sur l'affaire Michel Zecler, le producteur de musique qui a été passé à tabac par la police. Donc contre les violences policières.
Voilà, les violences policières, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que là où je suis toujours un peu mal à l'aise avec ce genre de là où je suis d'accord avec Jean-Michel, c'est que tu t'engages, mais il y a un mec qui va t'expliquer. Alors, oui, Kylian, qu'est-ce que tu penses des morts sur les chantiers au Qatar?
Oui, bon, là,
c'est ça que je veux te dire, c'est que faut faire attention.
C'est un engagement à géométrie variable.
Mais c'est un engagement. Il va s'engager sur ce mec-là. Bon, ok, très bien, il a raison. Mais en même temps, il va dire oui, mais il y a 6000 mecs qui sont morts sur chantier au Qatar.
Tu dis parce que ça lui coûte rien, quoi.
C'est pas ça, je sais que c'est... Non, mais évidemment que c'est sincère, mais je veux te dire, c'est que quand tu commences à...
D'ailleurs, il dit
que
ça vient toujours de moi, engagement.
Quand tu commences à faire le porte-drapeau, faut faire attention à pour qui tu travailles, qu'est-ce que tu défends...
Mais dans ce cas, tu fais rien.
Ah, c'est pas ça que je dis. C'est que tu peux faire des choses, mais c'est toujours un peu délicat. Quand tu vas dire je suis contre la violence, tu vas aller expliquer entre guillemets que tu es choqué par des choses.
Quand même, hein.
Alors,
bon débat.
Détrompe-toi. Moi, je connais des gens qui sont pour la violence. C'est des très bons amis. Et je les embrasse.
Ah non.
Mais ça, c'est une autre forme de violence.
Ce que je veux te dire, c'est que c'est toujours un peu délicat. Mais même si je sais qu'il est sincère et je suis d'accord avec lui, c'est quand tu dis je suis choqué par des violences et que toi, tu travailles pour un employeur qui te paye grassement et qui, lui, est plutôt sous les feux de l'actualité par rapport à ça.
Oui, mais dans ce cas, si tu veux être cohérent avec ce que tu dis, tu ne t'engages pas.
Sur ce terrain-là, c'est tendu.
Bon. Coach.
Mais il fait ce qu'il veut, encore une fois. Et marque des buts, frère. Et reste à Paris, c'est quoi? C'est quoi, franchement? C'est ce que j'ai à dire.
Coach.
Si tu veux, ça reste quand même un sportif et donc un joueur de foot où on a quand même eu depuis pas mal d'années une réputation, nous les joueurs de foot, pas d'être des gens très, très futés. Je l'ai vu moi à mon époque quand j'étais jeune, les commentaires sur un joueur de foot en généralisant, on dit ouais, mais joueur de foot, ça veut dire bon.
Tout dans les jambes, rien dans la tête.
Ouais,
exactement. Oh non, il n'y a pas de c'est vrai.
Et là, je vois quand même un garçon qui, moi, m'étonne, mais agréablement, depuis qu'il a 17-18 ans. Je le vois en avance sur son temps, je le vois en avance dans la réflexion. Alors évidemment, quand mon grand-père disait, tu prends et tu choisis une carrière de bavard, tu as plus de chances de dire de temps en temps quelques conneries. Mais même si on a pu voir depuis qu'il parle, ben, qu'il a pu aller un petit peu déraper par moment. Dans l'ensemble, je prends plaisir dès que je vois qui va parler, je prends plaisir à l'écouter.
Eh oui, je suis d'accord avec toi.
Et 9 fois sur 10, je me dis, tiens, c'est bien ce qu'il a dit, c'est bien ce qu'il a fait. 9 fois sur 10. Alors après, est-ce que moi je suis un bon juge? Ça, j'aurais pas cette prétention. Mais toujours dit,
bah, t'étais plutôt en face.
C'est à moi que tu poses la question. À ce moment-là, c'est moi qui te réponds.
Très bien. Allez, on laisse Mbappé de côté. On reste sur cette bonne blague de Julien.
Non, mais c'est pas vrai. Je suis seul face au but. Soit je suis Timo Werner, soit je la mets au fond.
En même temps, Cole, c'est ton meilleur passeur décisif.
Bah, t'inquiète pas, je l'aurais pas pris comme avocat, lui.
J'imagine. Ah, bah, trompe-toi, c'est que j'aurais pas été mal.
Ouais, bien sûr. Alors, messieurs,
on passe tout de suite à Sir Alex Ferguson. Donc, il y a un excellent documentaire qui est sorti d'ailleurs sur les plateformes de VOD. Sir Alex Ferguson, le rêve impossible. Documentaire réalisé par l'un des trois fils de Sir Alex Ferguson. Et il est avec nous pour en parler. Jason Ferguson est dans Top of the Foot. Bonsoir, Jason. Alors, merci de nous répondre. Donc, dans ce doc, il y a évidemment énormément de choses sur la vie de votre père. Et d'ailleurs, est-ce que ce doc, vous ne l'avez pas fait pour qu'à vie, il ait un souvenir? Parce que la mémoire, c'est quelque chose de très important dans le doc pour lui. Parce que le doc commence sur cet AVC qu'il a fait. Et sa hantise à ce moment-là, vous le racontez dans le documentaire, c'est de perdre la mémoire, c'est de perdre tous ses souvenirs en lien avec le foot.
Oh yeah, absolutely the truth. Actually, when he first
tout à fait.
Expressed his fear of losing his memory.
En fait, la première fois qu'il a exprimé sa peur de perdre la mémoire, il venait d'avoir une hémorragie. On avait pris une ambulance pour aller de chez lui à l'hôpital. Il avait passé un scan. On attendait les résultats. Et tout à coup, il a mis sa tête dans ses mains, comme on le voit dans le film, et il dit, j'espère que je ne vais pas perdre la mémoire. Et même dès le début, donc avant même d'avoir les résultats du scan, il avait peur. Quel genre de père était-il? Parce que beaucoup de joueurs ont pu décrire leur relation avec lui, mais pour vous, en tant qu'enfant, quel genre de père il était? Vu ce que nous décrivent les joueurs, on avait l'impression qu'il était autoritaire, même s'il avait une part pour la psychologie importante, mais il était quand même très dur. Il était ce genre de père?
C'est un bon père.
Il était très occupé quand on était petit. Quand il construisait sa carrière de manager. Mais ce n'était pas très différent de beaucoup de nos amis, parce qu'on a grandi à Aberdeen et beaucoup de gens travaillaient dans l'industrie du pétrole et donc partaient pendant des semaines sur des plateformes et donc les enfants ne voyaient pas leur père. Mais il était toujours là pour des avis quand on avait besoin de lui. Même s'il était occupé quand on était enfant, mais mes frères et moi, on ne changerait jamais les souvenirs d'enfance qu'on a et la relation qu'on avait avec lui. Et c'est l'occasion pour nous, Français, de parler de son rapport à Eric Cantona particulier. D'ailleurs, on apprend dans le doc que c'est grâce à Michel Platini que Ferguson recrute Eric Cantona, qui est en rupture avec le foot français à ce moment-là. Et d'ailleurs, dans le doc, il y a aussi une anecdote que je trouve très intéressante, c'est de voir comment il traite différemment Cantona des autres. C'est Giggs qui le raconte dans un gala de charité. Giggs arrive avec un bouton déboutonné. Ferguson fonce sur lui et tout de suite lui demande de reboutonner son col. Alors que Cantona arrive presque débraillé et Ferguson ne lui dit rien à part quelle classe. C'était son chouchou, c'était son joueur préféré, Eric Cantona?
Je pense pas qu'il avait un joueur préféré.
Oui, je pense que c'est la manière de gérer qu'il avait. Et c'était pas seulement pour Cantona. En fait, il manageait un groupe, mais aussi des individus, pour obtenir de chacun d'entre eux le maximum. Et donc, il fallait changer son approche en fonction des joueurs, et avec Eric, il fallait lui laisser plus de liberté.
I know from speaking to Ryan that the players never had a problem.
Et pour en avoir parlé avec Ryan, ça n'a jamais gêné les joueurs parce qu'ils avaient beaucoup de respect pour Eric et son impact pour le club.
Comes back to really, as I said, dealing with people on an individual basis.
Donc le principe, c'est vraiment de gérer les personnes comme des individus et pas dans le groupe.
Maximize the potential from each and every one of them.
Pour maximiser leur potentiel.
Le témoignage de Cantona est vraiment très fort sur Ferguson, le seul qui a réussi à tirer autant d'Eric Cantona. Alors, il le dit, son rêve absolu, c'est la Ligue des Champions. Il l'a gagné à deux reprises avec Manchester United. Est-ce qu'après le titre de 99, il n'aurait pas pu aller ailleurs? Est-ce qu'il a eu envie d'aller entraîner ailleurs? Est-ce qu'il a été sollicité pour peut-être gagner ailleurs qu'à Manchester United?
I'm sure those opportunities came to him on a regular basis.
Je pense qu'il a eu des opportunités assez régulièrement.
You know, in the process of making this film before we started.
Avant de commencer à tourner le film,
me and my dad spent
j'ai fait des interviews avec mon père pendant 18 mois. Des interviews enregistrées. Et j'avais 70 heures d'enregistrement et on a parlé de beaucoup de choses. Il aurait eu beaucoup d'opportunités de quitter Manchester. Il aurait pu aller dans d'autres clubs européens et il aurait pu multiplier son salaire. Mais je crois qu'il s'est toujours dit qu'il ne pourrait jamais trouver mieux que Manchester United. Il était tombé amoureux de ce club dès le premier jour.
You know, the grass isn't always greener.
Et parfois l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Alors c'est vrai qu'il a dû avoir des opportunités excitantes, mais je crois qu'il n'a jamais vraiment voulu aller voir ailleurs.
Dernière question avant de vous libérer, Jason. Quel rapport il a avec le foot français? On a parlé de son rapport à Eric Cantona, il a croisé des joueurs français, mais quel rapport il a avec le foot français? Je crois qu'il aime beaucoup la France, culturellement.
I don't really know, to be honest.
Alors, je ne sais pas vraiment, pour être honnête, il faudrait lui demander. C'est sûr que le pays, il adore la France. Attendez, laissez-moi réfléchir avant le Covid. Ça fait 25 ans. En 25 ans, tous les étés, il venait en France. Quand il entraînait, il prenait 4 semaines de vacances et il les passait en France. Et après sa retraite, tous les mois de juin, il était en France. Il adore les gens, il adore la nourriture, il adore le vin. Ouais, il adore la France. Mais en tout cas, en matière de football, je ne sais pas du tout ce qu'il en pense.
Merci beaucoup, Jason Ferguson.
Thank you.
Voilà, donc l'un des fils de Sir Alex Ferguson qui est venu donc nous parler de ce documentaire, donc pour l'entraîneur légendaire de Manchester United.
Le fils de Duprat demain qui vient.
Écoutez, bienvenue.
Pascal.
On n'est pas sur le même palmarès.
Ça dépend. Alors, excuse-moi, à Toulouse, il a fait quoi à Toulouse
Ferguson, c'est vrai qu'il a rien
Merci,
fait.
Merci, j'ai pas la question.
Captain, si tu dois garder une image de Ferguson, qu'est-ce que tu dirais?
Garçon voyant. D'abord, bouffer des chewing-gums comme un footballeur américain. c'est vrai. Et puis, quelque part, cette faculté à encaisser les événements, on avait l'impression que tout lui passait très largement au-dessus de la tête. Je l'ai vu plusieurs fois sur un banc de touche de très près à Manchester.
Ouais.
Et véritablement, ça n'avait rien, ni d'un excité, ni d'un gars qui subissait. Il regardait ce spectacle, on avait l'impression qu'il analysait la situation toujours assez froidement. Voilà.
Il était un peu rougeau tout le temps, mais oui.
Il était bon jusqu'à croiser coach Courbis.
Mmh. C'est sûr que c'est un de mes beaux souvenirs quand même.
Contre Manchester, Marseille-Manchester.
Oui, bien sûr.
On perd 2-1, on mène 1-0 à un quart d'heure de la fin. Et on se fait égaliser avec Issa, Pierre Issa, qui est blessé, qui est à 5 mètres de la ligne de touche et qui, au lieu de rester sur le terrain dans un souci de bien faire, il sort difficilement à 4 pattes en rampant et donc il frappe le coup franc. Beckham y centre et York marque de la tête dans une zone qui était celle de
Pierre Issa.
Il nous marque, il perd 2-1.
Il y a la victoire 1-0
avec
Galas, c'est ça,
ouais, ça c'est la
et 15, okay. 15 jours après, on les bat. Après un très bon match, mais bon, ils avaient une énorme équipe.
Moi, ce que je retiens quand même de ce type, c'est qu'il a réussi à canaliser et à mettre capitaine Eric Cantona et Patrice Evra.
Honnêtement, dans le doc, Alors, sur Evra, il n'y a rien. Non, mais sur Cantona, c'est fabuleux. Non, mais la façon
quand tu vois
dont
ce que c'est comme
Cantona.
Personnalité. Mais même pas, regarde, Pat Evra, tu l'as vu hors Ferguson, comment c'est un cassos.
Non, c'est vrai.
Alors
c'est
que
vrai.
C'était un capitaine irréprochable.
Exactement.
Le mec, c'est, il est fascinant.
On laisse Ferguson de côté.
Oui, le hairdryer surtout. C'est le hairdryer.
Le hairdryer sur Beckham. Exactement. Il y a une histoire aussi similaire sur une bouteille lancée par Giggs à la mi-temps d'un match aussi. Enfin bon, tout ça est magnifique. Sur Alex Ferguson, le rêve impossible, donc un super documentaire. Dans un instant, quand va-t-on remarquer un penalty en équipe de France? C'est le débat entre les lignes, à tout de suite.